www.radio-g.fr.
Vous êtes à l'écoute d'Imaginaire sur le 101.5. On est ensemble jusqu'à 22h avec la chronique de Bess sur les héroïnes. Cette fois, elle reviendra sur Harley Quinn dans sa dernière incarnation cinématographique. Ensuite, Julien Dufond de l'Abri 13 nous conseillera, une fois n'est pas coutume, un jeu vidéo et un jeu de rôle. Après, on aura le retour du professeur Patrice, toujours ambiancé par Basile Polidouris. Cette fois, il nous parlera de la sphère de Dyson que l'écrivain Laurent Genefort évoquait récemment dans cette même émission. Et puis pour terminer, on aura la chronique Anna Diplos de Romald qui sera consacrée au voyage. Alors ce soir, on va beaucoup voyager en musique. Le Tyrannosaurus Imperium est toujours confiné dans sa caverne, mais nous partons tout de suite pour le Jurassique supérieur avec l'artiste Diplodocus, qui est à ma connaissance l'unique représentant de ce nouveau style qu'il appelle le Dino Synth. On va s'écouter un extrait de son album Slow and Heavy, qui est sorti sur le label Dungeons Deep Records, un label spécialisé dans le Dungeon Synth, cette musique synthétique un petit peu cheap d'inspiration médiévale. Alors Diplodocus se distingue de ses collègues par une inspiration 100% préhistorique, avec des samples de cris de dinosaures qu'on imagine animés par le marionnettiste du cinéma Ray Harryhausen, des visuels rétro adéquats, et puis des titres de morceaux assez rigolos comme ce Faint Burning Glimmer in the Mesozoic Sky qu'on écoute tout de suite sur Radio G.
from her, you bitch!
I know my value. Anyone else's opinion doesn't really matter.
Mary Poppins, practically perfect in every way.
Spoilers. Rappelez-vous, il y a longtemps, bien longtemps de cela, je vous avais parlé du personnage de Harley Quinn dans le film Suicide Squad, que j'avais dû regarder deux fois. Oui, deux fois. J'ai donné pour vous, j'ai souffert pour vous, telle une Jésus radiophonique. Alors, quand j'ai eu l'occasion de regarder le spin-off de Suicide Squad, intitulé Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, j'ai repris mon casque et mon armure et j'y suis retournée. Histoire de voir si notre héroïne avait un tant soit peu évolué. Dans Suicide Squad, nous avions droit à une Harley Quinn qui n'existait qu'à travers le Joker et qui était objectifiée à mort. Qu'en est-il dans Birds of Prey ? Dans ce nouveau film, nous commençons avec la rupture de notre personnage et du Joker. La voilà donc seule, ce qui a deux conséquences. Primo, sans le soutien de son ex, elle est pourchassée par la police et par tous les truands à qui elle a joué le mauvais tour. Secondo, elle qui n'existait qu'à travers le Joker va devoir apprendre à être elle-même et avancer. Ça tombe bien, c'est ce qu'elle compte faire. En route pour l'émancipation. C'est ce que Harley Quinn va nous raconter tout en voix off. Voici son histoire, l'histoire de son empowerment. Comment s'en sort-elle ? Déjà, elle picole comme une folasse. Alors je ne juge pas. C'est un comportement que l'on retrouve beaucoup après une rupture. Hein, ça arrive. Mais il faut dire que Harley est certes psychiatre de formation, mais complètement psychopathe en pratique. Alors une folle bourrée, ça peut faire du dégât. Surtout que la dame a certaines compétences en baston et en culot. Rajoutez à ça un petit côté je pense qu'à ma gueule, et bingo, voici notre nouvelle Harley Quinn, dont la première grande décision sera d'acheter une hyène de compagnie. Vous voyez le niveau de psychopathie quand même. Au-delà de sa personnalité, Harley Quinn c'est aussi un look. Fini le mini-short et le t-shirt à la gloire du Joker. Bienvenue le short confort, les couleurs, les paillettes. C'est un look joyeux, prêt pour faire la fête à n'importe quel moment. Et ça reflète aussi le côté sympa et spontané de notre héroïne. On sent qu'avec elle, quand on la voit au premier coup d'œil, tout peut partir en cacahuète d'un instant à l'autre. Pas de sexualisation ou trans, ouf. Et on dit oui, 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 enfin. Alors ok, elle est folle dingo, mais comment s'émancipe-t-elle par rapport aux hommes ? Car c'est de ça qu'il est question. On remarquera que la plupart de ses poursuivants sont des mecs, tout comme le grand méchant du film, Roman Sionis. Petite parenthèse, il est interprété par un Evan McGregor en surjeu permanent qui tente d'imiter le Joker de Jared Leto. C'est fatigant ! Fin de la parenthèse. Pour vous la faire courte, Harley Quinn va se retrouver au cœur d'une affaire où sa vie est en jeu. Mais surtout, elle va croiser le chemin de trois autres femmes qui en ont sous la semelle. Renée Montoya, la flic bloquée par le plafond de verre, Black Canary sous la coupe des méchants, Huntress, une assassin assoiffée de vengeance, et une petite quatrième qui est Cassandra Cain, une ado pickpocket. C'est surtout la rencontre avec cette dernière qui va marquer notre héroïne, puisqu'elle finira par la prendre sous son aile, histoire de ne plus se sentir trop seule. Mais n'allez pas croire que Harley Quinn se transforme en gentille maman. Non, non, elle reste qui elle est, psycho et égoïste. On appréciera dans ce film l'alliance entre les quatre adultes déterminés à sauver leur peau, protéger Cassandra, casser la gueule aux méchants et mettre fin au règne de Roman Sionis sur la ville. Alliance qui finira par la création du trio Montoya, Canary, Huntress, à savoir les Birds of Prey. Que retenir de cette nouvelle version de Harley Quinn au cinéma ? Le personnage du film en lui-même, il est plaisant. Harley Quinn, elle est fun, maîtresse de sa vie, elle sait mettre ses pieds dans la gueule de ceux qui l'emmerdent et elle aime les paillettes. L'évolution par rapport à Suicide Squad est notable et appréciable. Et notons que l'actrice Margot Robbie s'investit pleinement dans ce personnage, qui aurait sans doute mérité un meilleur film. Oui, car je vous ai épargné ma critique du long métrage qui n'est, on va dire, pas terrible, terrible. Alors, pourquoi ne pas la revoir de nouveau dans de nouvelles aventures ? Bon, moi je dis pourquoi pas. Allez, je vote pour. Et pour se quitter en musique, j'ai été piochée dans la soundtrack du film. Préparez votre booty pour checker sur Boss Beach de Doja Cat.
I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. I'm the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go, go, go with the flow. Back then until I touch my toes. I don't wanna roll, roll, roll to go. Wrist full of rocks and I hope I flow. Big up yourself cause you know they don't. I chew, chew, chew cause they hope I show.
I'm a bitch, I'm a boss.
bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass.
Same bitch on the after, you've been the before. I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. And boo, don't be mad, cause you had the chance.
Yeah, said I took it and I ran for it. I went and then I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright with a bit of tan on it. Said I took it and I ran for it. I went and then I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright with a bit of tan on it.
I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass.
À moins que vous habitiez une autre planète, ce qui entre nous soit dit nous réjouirait et nous prouverait que les ondes de Radio G émettent au fin fond de l'univers, il ne vous aura pas échappé que nous sommes confinés depuis maintenant près d'un mois. En littérature policière, qui dit confinement dit meurtre en chambre close. Une spécialité venue d'Agatha Christie, vous savez, Mort sur le Nil, Lady Tinaigre, peaufiné par John Dixon Carr et Edward D. Hawk. En France, il serait superflu de causer du mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Il suffirait de rappeler qu'aujourd'hui, Paul Alter a repris le flambeau avec des crimes insolubles dans des endroits souvent très calfeutrés. Je viens, pour ma part, de lire un roman d'espionnage matiné d'aventure et de science, donc de science-fiction, qui ne m'a pas laissé insensible malgré ses près de 700 pages. Il s'agit de Johnny Porter et le secret du mammouth congelé. Quel titre français, de Lionel Davidson. L'histoire se déroule en Sibérie et un agent américain doit entrer dans une base scientifique russe. L'endroit confiné, vous l'aurez deviné, c'est bien entendu la base dont personne n'a le droit de sortir. Mais je garde ce roman vintage pour l'émission de Calibre 58 de la semaine prochaine, avec en plus les mémoires de Hiro Onada, un soldat japonais qui est resté confiné sur son île des Philippines pendant plus de 30 ans après l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Parfois, la fiction est dépassée par la réalité. Et ce, même s'il faut bien dire, si les écrivains d'anticipation se documentent et s'intéressent au monde avant de concocter leurs intrigues, à l'instar d'un certain Deon Meyer, auteur d'Afrique du Sud, dans L'année du Lion, paru il y a quelques années au Seuil, et qui nous parlait du voyage touristique d'un certain coronavirus. J'ai très longtemps cherché à rédiger une chronique brillante sur le confinement à partir de mes longues études littéraires et scientifiques. Mais j'ai finalement opté pour d'autres études que je menais en marge de celle-ci. Et oui, je suis une espèce de stakhanoviste des temps modernes. Je veux parler donc de ces études en jeux vidéo et jeux de rôle, et je ne vous cause pas de ma licence professionnelle de tarot et de belote. Pourquoi ce choix ? Eh bien, parce qu'il est tenu pour acquis que les plus coriaces lecteurs ont du mal à tourner une page en période de confinement. Et puis, je me suis dit que s'il y avait quelque chose d'important à faire, c'était bien d'anticiper la sortie de ce confinement. Et donc, d'ouvrir les portes de l'Abri 13. Mais qu'est-ce que l'Abri 13, me direz-vous, pour peu que vous suiviez cette chronique ? Ah ah, écoutons un peu.
« me a kiss to build a dream on. In my imagination, we'll thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. A kiss before you leave me alone. And my imagination will feed my hungry heart.
Et lorsque vous quitterez l'abri, n'oubliez pas de suivre les règles suivantes. Règle numéro 1. Alignez-vous en rang et calmement.
With my fancies.
Règle numéro 2. Portez des lunettes de protection. Après tant d'années passées dans l'abri, vos yeux seront sûrement sensibles à la lumière naturelle. Sans verre protecteur, vos yeux pourraient être sérieusement abîmés. Une fois dehors, préparez-vous à vivre une nouvelle vie. Grâce au jardin d'Éden, en kit. Ou Jack, voilà. C'est G-E-C-K, le Jack. Utilisez le Jack pour créer le nouveau monde, tant attendu. Fin, une présentation Voltec. Ah, c'est sympatoche. Cette vieille 3D, hein. Les persos étaient pas très jolis, les petits bonhommes. Ah bon, 3D. Wapouetin, nous sortons.
Qui avait éteint la lumière?
Revenons aux origines. Parce que confinement rime avec abri et que abri rime avec Fallout, la série de jeux vidéo culte dont le deuxième opus, Fallout 2, est un must qui ne risque pas d'être dépassé, vu qu'en ce moment, la création de jeux vidéo en est réduite à sa plus simple ossature. Bref, on en est revenu au stade zéro pour le vieux joueur grincheux que je suis et qui regrette les Daggerfall et autres Baldur's Gate, Ishar, Might and Magic. Est-ce que vous avez joué à Fallout 2 autour de cette table? J'ai l'impression de parler dans le vide. J'ai l'impression furieuse que nous avons été plongés dans un univers post-apocalyptique. Ce qui nous ramène donc à Fallout 2. On est dans un monde steampunk sur fond d'Uchronie. Exit l'abri 13. Le héros du précédent volet a dû le fuir et fonder le village d'Arroyo. Il a avec lui un Jack qui lui sera utile pendant ses pérégrinations. Il est de nouveau de sortie de par le vaste monde et doit retrouver le saint abri tout en défiant des forces obscures et omniprésentes et se confronter à des bestioles radioactives, du scorpion géant au cafard, et à des junkies forcément paumés, le tout dans des combats au tour par tour dans un mode hexagonal avec possibilité de tenter des critiques en visant plus particulièrement certaines parties des corps adverses, ce qui peut s'avérer trash. Bon, le jeu était très bien fait et il est sans fin puisqu'il se joue avec un personnage que vous pouvez interpréter de différentes manières et que les actions que vous faites auront des incidences sur son karma et sur ses actions à venir. En plus, il est envahi de culture pop. Pour un peu, je m'y recollerai. Vous pouvez essayer Fallout Shelter sur votre téléphone portable, voire sur votre ordinateur. Vous aurez à créer un abri de toutes pièces, à monter des équipes d'aventuriers pour explorer le vaste monde désolé, à faire croître les aptitudes des héros que vous enrôlerez et à équiper les membres de l'abri qui vous serviront d'ouvriers qualifiés. Le jeu est certes un peu répétitif avec ses quêtes aléatoires et les dangers qui sont plus nombreux à l'intérieur de l'abri même qu'à l'extérieur, mais il a l'avantage d'être gratuit et de nous replonger dans l'univers technologique tout en faisant de nombreux clins d'œil à la saga précitée. Donc Fallout, c'est une très bonne série de jeux vidéo sur la sortie du confinement. Je vous la recommande d'autant plus chaudement que c'est le moment de vous replonger dans les années 1990. Je rappelle, Fallout 2, 1997, année faste, s'il en est. Dans un univers parallèle et sous forme de jeu de rôle, je vous recommande chaudement de faire main basse sur un jeu de chez FASA. Les plus anciens érudits sur le jeu de rôle, et je me permets de mettre en avant mon ami Jean-Hugues, ici présent et somnolent, savent que cette société a été l'un des fers de lance du jeu de rôle avec des produits tels que Shadowrun et Battletech. Parlons donc de Hearthdawn. Là, changement de décor. Le décor, c'est du médiéval fantastique. Vous incarnez un personnage issu des 6 races typiques, à l'exception peut-être de l'obsidien. Et vous avez des disciplines qui vous permettront d'affronter un monde dont la société s'est protégée durant des siècles. On décèle les portes des différents abris. On redécouvre un monde mutant. On a des objets magiques. Et surtout, des créatures affolantes qui s'appellent des horreurs. Et qui sont de véritables horreurs. Et puis, il y a les forces terribles de l'Empire, les Terrans. C'est un peu une vision d'un monde post-apocalyptique sur lequel le capitalisme et l'ordre fasciste voudraient remettre la main. Ce n'est que pure fiction. Il y a plein de scénarios plus ou moins bien ficelés, et surtout, il y a ces races improbables. Ah, je me rappelle du Sylphelin, qui permettent de monter une équipe de choc aventurière. Le système de dés est très simple, l'univers très fouillé. Les suppléments de jeu avec des cartes, des modélisations sont très bien faits et l'éditeur ne s'est absolument pas foutu de vous. Vous êtes équipé comme jamais pour affronter le monde une fois décelé l'entrée de votre abri. Donc, deux jeux sinon rien, Fallout 2 et Hearthdawn. Deux vieux jeux, donc 1, c'est du recyclable, 2, c'est écologique, et 3, ce n'est plus en ligne. Vous aborderez la question épineuse de la sortie du confinement de la meilleure ou la pire des manières. Alors, affûtez vos armes, votre souris, vos dés. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a autour de cette table qui ont tenté une partie de jeu de rôle par visioconférence? J'ouvre le débat. À suivre.
Notre hommage à Manu Dibango sur le 101.5 avec un extrait d'une de ses nombreuses bandes originales. Là, c'était pour le film américano-nigérian Countdown at Kusini en 1975. Thank you.
aurez reconnu au générique, c'est le retour du professeur Patrice. Le retour du fils de la vengeance, bien sûr. Vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Freeman Dyson est mort le 28 février de cette année, à l'âge de 96 ans. Non, pas de ce que vous croyez. D'une chute, semble-t-il. Il y a des cas où le cerveau reste plus jeune que le corps. On attribue à Dyson cette phrase « Il est beaucoup plus amusant d'être contredit qu'ignoré ». Ce trublion de la science n'était pourtant pas un rigolo. Jugez-en plutôt. Depuis 1948, il avait un bureau réservé à l'IAS de Princeton. L'IAS, c'est l'Institute for Advanced Study, et c'est loin d'être des rigolos qui y travaillent, justement. Dyson et ses collègues Hooft et Weisskopf ont obtenu en 1980 le prix Wolf de physique pour leur exceptionnelle contribution en physique théorique, particulièrement dans le développement et l'application de la théorie quantique des champs. Bon, n'insistez pas, je n'essaierai même pas de vous expliquer de quoi il s'agit. Mais pourquoi diable, professeur Patrice, nous parles-tu de ce personnage, certes grand physicien, mais qu'aucun d'entre nous n'aurait été capable de comprendre ? Eh bien, cher et impatient auditeur, parce que ce monsieur est l'inventeur de la sphère qui porte son nom, la sphère de Dyson. Enfin, quand je dis l'inventeur, entendons-nous bien, il s'agit de l'inventeur théorique de cette sphère dont personne n'a encore perçu le moindre signal. De quoi s'agit-il ? Comme il est important de citer ses sources, je vous annonce que ce dont je vais vous parler est largement inspiré d'un article de Roland Lehoucq, astrophysicien que vous connaissez tous. C'est l'actuel président des Utopiales de Nantes, et nous l'avions interviewé en 2018. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas, fidèles auditeurs de Radio G sur 101.5 ? L'article auquel je fais référence est paru dans le numéro 542 de Ciel et Espace, juillet-août 2015. Il s'agissait dans cet article, entre autres, de la recherche de civilisations extraterrestres, en particulier à partir de leur consommation d'énergie. En 1964, le physicien russe Nikolai Kardashev avait proposé un classement des civilisations, classement basé sur leur consommation d'énergie, justement. Par exemple, une civilisation de niveau 1 est capable de contrôler toutes les formes d'énergie disponibles sur sa planète. Je vous signale tout de suite que nous sommes des petits joueurs par rapport à une telle civilisation. Car quand je dis toutes les formes d'énergie, c'est aussi bien l'énergie éolienne que marémotrice, géothermique, thermonucléaire, solaire et j'en passe. Et cela représente une consommation des milliers de fois supérieure à la nôtre. Quand je vous disais qu'on est des petits joueurs. Ok, mais après, l'énergie, même renouvelable, comme on dit aujourd'hui, ça s'use. Tiens, justement, petit aparté d'écologie déviante. Je sens que le Tyrannosaurus va adorer. Quand vous mettez des panneaux solaires, ce que vous captez ne réchauffe pas la Terre. Plus on met de panneaux solaires, plus la Terre se refroidit. Vous me direz aujourd'hui, c'est peut-être pas un mal. Bon, et les usines marémotrices qui captent l'énergie des marées, ça ne ralentit pas la rotation de la Terre, tout ça ? Mais c'est quand même pas de mal à veille qu'on se fasse faire le jour où la Terre s'arrêta. Et que penser des microclimats générés au pied des éoliennes à cause des différences de pression ? Donc, renouvelable, voire... Bref, ça nous éloigne de notre sujet. Où en étais-je ? Ah oui, la civilisation qui utilise toutes les formes d'énergie possibles d'une planète, mais qui finit par l'épuiser quand même. On passe donc au niveau 2. Une civilisation capable de récupérer toute l'énergie rayonnée par son étoile. Ah ah, ça rigole plus au fond. Mais comment ? Avec quelle structure ? La science-fiction y a pensé, bien sûr. Le roman « Créateur d'étoiles » d'Olaf Stapledon pourrait avoir inspiré notre regretté Dyson. Dyson proposait en effet la construction d'une sphère d'un diamètre égal à celui de l'orbite d'une planète, environ 300 millions de kilomètres au niveau de la Terre par exemple, capable de capter la lumière de l'étoile centrale. L'énergie captée pourrait être retransmise sous forme de micro-ondes sur la planète de nos extraterrestres. Et cette transmission est loin d'être de la science-fiction. Plusieurs projets de centrales solaires orbitales sont réellement à l'étude. Avant de revenir à notre sphère de Dyson, je ne résiste pas à faire un petit clin d'œil à notre ami Laurent Genefort et à sa série Omal. Les lecteurs savent de quoi je parle. À présent, parlons chiffres. Une sphère de Dyson, capable de récupérer toute l'énergie du Soleil, ça représente la consommation de l'humanité en 1 million d'années. Par seconde. La consommation de l'humanité en 1 million d'années chaque seconde. Alors, je vais vous passer les problèmes techniques, hein, parce qu'il y en a pas mal. Comment faire tenir tout ça ensemble? Faut pas que ça chauffe. Mais et je vous conjure, lisez l'article de Roland Loux. C'est une mine d'informations passionnantes. Et ça vous éclairera sur les différents problèmes liés au fonctionnement d'une sphère de Dyson. Alors lisez-le, ou le Tyrannosaurus vous bouffe. Sachez quand même que si l'on veut que toutes ces structures restent en équilibre thermique et ne se mettent pas à fondre, il faut évacuer une partie de l'énergie à l'extérieur, vers l'espace infini et au-delà donc. Et c'est là que notre Dyson intervient dans sa recherche de civilisation extraterrestre. Si la sphère rayonne, elle est détectable. Mais il ne s'agit pas du tout des longueurs d'onde balayées par le programme SETI, par exemple, qui recherche les ondes radio du genre les bavardages sur le Facebook extraterrestre, mais de l'infrarouge. Voilà, mais comme je vous le disais au début, pas de détection probante d'un type de rayonnement infrarouge qui mettra en évidence l'existence d'une sphère de Dyson extraterrestre. Mais sans doute pas de programme systématique comme tente de le faire SETI. Alors, sommes-nous seuls dans l'univers? Je crois que c'est un autre sujet.
Imaginez un train qui se déplace à grande vitesse. À l'intérieur de ce train, un joueur lance une balle de ping-pong en l'air, elle retombe sur une table et y rebondit à une seconde intervalle deux fois au même endroit. Pour le joueur, la distance entre les points de rebond est nulle. Par contre, un observateur placé le long de la voie ferrée aura l'impression que les deux rebonds se sont effectués à 40 mètres l'un de l'autre, soit la distance parcourue par le train en une seconde quand il se déplace à 144 km/h. Alors, la balle a-t-elle parcouru 40 mètres ou est-elle restée au même endroit? Pour Newton, les deux propositions sont vraies. Vous et moi, auditeurs, nous sommes cette balle de ping-pong, à la fois immobile et en mouvement dès lors que, assis ou allongé, vous lisez un livre ou visionnez un film. Vous et moi sommes des voyageurs immobiles. Bien sûr, le voyage n'est pas exclusif à la culture de l'imaginaire, ni même à la fiction. Depuis que les hommes se racontent des histoires au coin du feu, le voyage est l'histoire. Cependant, le voyage reste une composante majeure de l'imaginaire, que ce soit en fantaisie ou en science-fiction. Prenez par exemple Le Seigneur des Anneaux, la trilogie de Tolkien qu'il n'est plus nécessaire de présenter. Les deux héros que sont les hobbits Frodo et Sam, avec leur 1m20 de haut et leur courte patte poilue, vont traverser au cours de leurs aventures de nombreux lieux et pays. Un périple que l'on peut suivre sur la carte de la Terre du Milieu incluse dans chaque ouvrage. Le petit malin se sont appuyés sur cette carte pour calculer la distance totale parcourue par les deux hobbits. Frodo et son serviteur, pardon son ami, auraient marché 2170 km sur une durée de 440 jours. On comprend mieux pourquoi ils ont pris un Uber idiot le retour. Mieux, à la fin du film Virus, titré Fukatsu no Hi en japonais, le docteur Yamauchi se lance dans un voyage à pied en solitaire et sans ravitaillement depuis Washington jusqu'à on ne sait pas trop où, mais on devine qu'il s'agit de la Terre de Feu. Soit un périple de moins 17 000 km. En comparaison, nos hobbits sont des amateurs. Étrange écho avec l'actualité, dans ce film de 1980, le monde est confronté à une pandémie mortelle appelée grippe italienne. Le rôle du docteur Yamauchi est tenu par Sonny Chiba, un acteur connu au Japon depuis les années 70 pour ses talents martiaux. Avant Virus, en 1979, Sonny Chiba joua un lieutenant de l'armée japonaise qui, avec ses hommes et leur équipement moderne, est projeté accidentellement dans le Japon médiéval, au cœur de la guerre civile de la période Sengoku. Le voyage dans le temps est définitivement un autre type de voyage, à la fois lointain et instantané, qui ne se mesure pas aux kilomètres parcourus. La science-fiction a exploré cette voie maintes et maintes fois. Je me contenterai de rendre hommage à l'un des pionniers et maîtres du genre, H.G. Wells, avec sa machine à voyager dans le temps. Un classique incontournable connu de tous et qui, à l'époque, avait donné ses lettres de noblesse au genre. D'ailleurs, plus tôt dans le 19e siècle, cette littérature se rassemblait sous l'appellation voyage imaginaire. Parfois à cheval entre ce que l'on nommerait maintenant du fantastique et la prospective scientifique, on l'appelle aussi merveilleux scientifique. Jules Verne en est bien sûr le représentant majeur avec ses voyages extraordinaires, tels que Voyage au centre de la Terre, 20 milieux sous les mers, De la Terre à la Lune, etc. Sonny Chiba aura voyagé à la fois dans le temps et dans l'espace avec le film de 1978, Les évadés d'espace, par le réalisateur Kinji Fukasaku, futur réalisateur de Virus, et qui finira sa carrière en 2001 par le film culte Battle Royale. Les évadés de l'espace rencontra un succès comparable à Star Wars au Japon, et reste l'une des références ultimes de Quentin Tarantino. Si le film est méconnu en France, sa série TV dérivée l'est beaucoup plus, puisqu'il s'agit de Sankukai, titre bizarrement réservé au public européen et sud-américain. La traduction littérale serait plutôt le message de l'espace, les guerres galactiques. Notez aussi que Sonny Chiba sera plus tard Bolzar, le père de Xor dans la série éponyme. Des voyages immobiles, il en existe aussi pour les protagonistes des histoires de l'imaginaire, car le véhicule est aussi un lieu, parfois huis clos étouffant, parfois vaste comme un univers. La SF en regorge avec ses vaisseaux spatiaux qui traversent des distances si considérables qu'elles en deviennent abstraites pour l'esprit humain. Le long voyage permet à la vie de poursuivre son cours et au drame de survenir. Dans Alien, le 8e passager de Ridley Scott, un monstre agressif s'est invité dans le Nostromo, un vaisseau cargo immense, mais habité par seulement 7 membres d'équipage, dont au moins un d'entre eux est un androïde, plus un chat. Le vaisseau prend alors des allures de labyrinthe géant où se déroule un jeu de cache-cache aussi démesuré que terrifiant. Plus grands encore sont les vaisseaux-mondes, assez vastes pour accueillir des peuplades dont le but est de coloniser des mondes lointains. Si lointains que plusieurs générations de colons vont s'y succéder avant d'arriver à destination. Pour brasser une diversité génétique nécessaire à la survie de l'espèce, ces derniers se comptent par dizaines de milliers au minimum. Leur vie n'a de sens dans le passage de relais d'une génération à une autre jusqu'à ce que le voyage s'achève enfin. Des travaux théoriques ont été menés sur ces arches dont le plus abouti est le cylindre O'Neill, long de 30 km et permettant d'y faire vivre des millions de colons. De très nombreuses œuvres de SF se sont emparées de ces concepts, tels que la station Cooper dans le final du film Interstellar ou le vaisseau extraterrestre du roman Rendez-vous avec Rama de l'écrivain britannique Arthur C. Clarke. Vous vous qui êtes devenu sous le joug du confinement des voyageurs immobiles, laissez votre esprit emprunter les véhicules culturels que sont le cinéma et la littérature de genre. Visionnez Les Guerriers de l'Apocalypse et suivez le lieutenant Ida joué par Sonny Chiba et ses soldats pour découvrir l'usage d'un tank à l'époque des samouraïs. Revoyez Kill Bill où Sonny Chiba forge un sabre pour une Uma Thurman vengeresse. Pour les fans de Hard Science, emparez-vous de Aeon de Greg Beer afin d'explorer un vaste astéroïde vaisseau monde. Attention, un diplôme en physique est recommandé pour cette lecture. Pour finir, n'hésitez pas à vous plonger dans le roman Abzalan de Pierre Bordage qui met aussi en scène un vaisseau de colonie au style plutôt pénitentiaire. Soyez curieux, il paraît qu'on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va.
Hey! Turn the lights on again! Look, if I was hitchhiking, would you fucking pick me up? Because I'm nothing but a fucking passenger. Can I get one? The passenger? Can I do it?
La 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 passenger. And he rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Is everybody cool up here? Are you all right up here? Are you okay? Okay, if you're not okay, just get on this thing and go that way or that way, or fucking steal the mic if you can.
Iggy Pop au Royal Albert Hall le 13 mai 2016 et on retrouve ça sur le CD, DVD de la tournée Post-Pop Depression. On se retrouve dans deux semaines, bien sûr, sur Radio G. D'ici là, n'hésitez pas à écouter les émissions littéraires du 101.5, émission qui continue, donc entre les pages le mercredi à 17h et Calibre 58 de l'ami Julien, les mardis impairs de 21h à 22h. On avait commencé cette émission avec du Dino Synth, un dérivé du Dungeon Synth, donc je vais vous expliquer. Eh bien, nous allons la clore de la même façon, mais cette fois avec un sous-genre beaucoup plus ramifié, c'est le Forest Synth, avec un extrait d'un album que j'aime beaucoup, c'est How the Garden Grows de Lost in It Apox Upon. Sur ce, je vous souhaite une bonne balade nocturne dans les bois avec le morceau Moonlit.
101.5 FM.
FM.